RTL.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Pour nous, médecins légistes, là, on va travailler avec les techniciens de scène de crime. On va regarder s'il y a une arme, comment elle est située par rapport au corps, le nombre de blessures, etc. Et tenir compte de l'examen du corps avec l'environnement du corps. Donc ça apporte un maximum d'informations.
La curiosité est un vilain défaut.
Bonjour Michel Sapanet.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue.
Bienvenue, vous êtes médecin légiste, maître de conférence en médecine légale et vous dirigez l'Institut de médecine légale du Poitou-Charentes. Le médecin légiste, on dit souvent que sa collègue de boulot, c'est la mort, que la mort est son métier, il y a toutes ces formules. Mais ce n'est pas seulement la mort votre métier.
Non, c'est aussi la mort, vie. C'est le noyau dur.
Ouais.
Et en périphérie de ce noyau dur, il y a les vivants, puisque en fait, on définit la médecine légale comme la médecine des situations de violence.
C'est-à-dire que qui vient vous voir ou dans quel cas vous êtes amené à rencontrer des êtres vivants dans votre métier ?
Alors pour les vivants, on travaille sur réquisition de la justice pour examiner des personnes qui sont victimes d'une agression, d'un viol, d'un accident de la route et qui donc vont déposer une plainte ou ont déjà déposé une plainte. Et notre travail consiste à faire un état des lésions, donc un bilan avec derrière un rapport qui va être parfaitement descriptif. On se prononce aussi sur la compatibilité entre ce qui est raconté aux enquêteurs et ce que nous constatons. Et enfin, on oriente la victime, lorsque c'est nécessaire, vers des structures de soins, parce que très souvent, il y a un retentissement psychologique, environ un tiers des personnes dans cette situation.
Est-ce que la majorité, quand même, de vos interventions, de votre métier, c'est la mort ?
Alors, si je prends l'exemple de Poitiers, on traite 530 dossiers de mort par an pour 1700 dossiers de vivants.
Est-ce que vous ne faites que ça ou est-ce que vous avez besoin d'autre chose ?
Ah non, alors j'ai instauré un principe dans le service, on fait ce que j'appelle du temps partagé. C'est-à-dire que je ne veux pas que les praticiens soient constamment à faire les morts, les victimes. Ils ont donc d'autres activités en fonction de leur spécialité. Par exemple, il y en a qui font de la psychiatrie, il y en a qui font de la médecine générale, des urgences, qui vont en prison examiner les détenus, etc.
Vous publiez, Michel Sapanet, en direct de la morgue, chronique d'un médecin légiste, c'est chez Plon. Et vous allez nous raconter une affaire qui vous a marqué. Ça va nous permettre aussi de découvrir vraiment les coulisses de votre métier. On va commencer par cette histoire abominable. C'est un crash sur l'autoroute A10. Ça se passe quand ? Que s'est-il passé ?
Ça se passe un mois de novembre. C'est déjà assez ancien comme histoire. Mais il y a du brouillard et les gens roulent beaucoup trop vite. Et il va y avoir environ 80 véhicules qui vont s'encastrer les uns dans les autres, dont une dizaine de poids lourds. Et l'ensemble va prendre feu. Et donc, on va avoir à la fin 400 mètres d'accident sur cette autoroute qui a doublé de largeur. C'est-à-dire que à force de s'encastrer, les barrières de sécurité ont été repoussées sur les côtés. Il y a une cinquantaine de victimes, dont des blessés graves, et il y a des morts.
Vous êtes appelé, Michel Sapanet, vous êtes appelé et vous apportez quel matériel ? Quelle est la première chose que vous chargez dans votre voiture ?
Mais on est toujours équipé avec un sac à dos minime, on va dire.
Il y a quoi dedans ?
Avec un contenu... il s'est beaucoup amélioré par rapport à l'époque. On a vraiment de quoi faire une levée de corps complète, c'est-à-dire un examen complet du corps sur les lieux de découverte. Mais là, on n'est plus du tout dans cette situation, puisqu'on a été obligé de faire appel à l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale de Paris, parce que les moyens à développer étaient énormes et il y avait 8 victimes.
Qu'est-ce qui vous surprend quand vous arrivez sur les lieux de cet accident de la route hors norme et quels sont vos premiers gestes ?
Alors, le hors norme, c'est exactement ça. C'est-à-dire que voir quelque chose de ce style pour la première fois quand on ne l'a pas imaginé, c'est extrêmement difficile. Et donc, en fait, je commence par parcourir les lieux de l'accident. Donc, j'ai fait une petite balade d'un kilomètre, le temps de faire l'aller-retour, avec au passage les pompiers qui me disent « Attention, mettez pas les pieds là-dedans, c'est de l'azote liquide. » Pas se brûler les pieds, et puis à essayer de dépister les corps dans les amas de tôle carbonisés. Parce qu'en fait, c'est un amas carbonisé.
Donc c'est-à-dire que vous devez reconstituer ces corps, en fait, le challenge, c'est de retrouver...
Doucement, doucement,
enfin,
doucement.
Oui, on n'en est pas là.
Il va falloir les retrouver. puisque on a vraiment une destruction massive des véhicules. Hein. Il y avait une Laguna dont la roue arrière touchait la roue avant parce qu'elle avait été compressée entre deux poids lourds. Et donc, à l'intérieur, on suspectait la présence de deux personnes. Mais il a fallu d'abord déplier la voiture avec les moyens des pompiers pour après pouvoir extraire ces corps.
Vous, alors j'imagine vous êtes là pour extraire les corps, les retrouver. Est-ce que vous donnez aussi des consignes justement aux pompiers ou à ceux qui interviennent pour détruire le moins possible d'indices, quoi, vous voyez ce que
tout
je veux dire?
Tout à fait. Le premier temps est un temps de réflexion. En fait, dans ces cas-là, on n'a jamais intérêt à se presser. On va commencer par se réunir avec les pompiers, les enquêteurs, les gendarmes et le procureur et prendre des décisions. C'est-à-dire que le procureur a aussi des besoins liés à l'enquête, lui. Il ne veut pas qu'on modifie trop les voitures parce que les experts automobiles vont devoir venir sur place, sur les lieux, juste après l'accident. Donc, ils viennent de Paris, donc c'est compliqué.
Qu'est-ce qu'on attend de vous, Michel Sapanet, dans un événement dramatique comme ça? C'est que vous rétablissiez les identités de ces corps, morceaux de corps?
Oui, puisqu'ils sont carbonisés, donc vraiment réduits à quelque chose qui n'est pas identifiable. Alors, plus ou moins carbonisés, mais non identifiables directement. Donc déjà, on attend de nous qu'on les retrouve, ensuite qu'on récupère tous les éléments humains dans la voiture. Ensuite, qu'on récupère tout ce qu'il y a en dessous, puisqu'il peut y avoir des pièces, des clés de voiture, des bijoux, des choses comme ça qui se sont détachées du corps. Et ensuite, faire des opérations médico-légales pour dire les causes du décès, dire s'ils ont été carbonisés vivants ou pas, puisque ça fait quand même une grosse différence pour les familles, retrouver les identités et ensuite faire une réunion avec les familles pour leur annoncer.
Est-ce que votre rôle en tant que médecin légiste, c'est aussi éventuellement de trouver qui est à l'origine de l'accident et donc de vérifier dans quel état il était, est-ce qu'il était sous l'emprise de l'alcool ou des choses comme ça, vous voyez ce que je veux dire?
Alors, il y a pour tous les conducteurs un minimum de toxicologie à faire pour vérifier qu'ils ne sont pas sous l'effet des drogues et sous l'effet de l'alcool. Et donc, en fait, là, on a étendu ces expertises à l'ensemble de toutes les victimes décédées.
Et vous avez pu remonter, vous et les policiers, à l'origine de l'accident?
Alors, oui,
savoir ce qui s'était passé, comment ça avait démarré.
Donc, on est qu'un petit élément dans une grande chaîne très compliquée. En fait, c'est du brouillard et le non-respect des distances de sécurité. Et après, avec un premier accident, et ensuite, ça s'enchaîne derrière. Donc, j'ai un peu changé mon mode de conduite quand il y a du brouillard sur l'autoroute. Je ne supporte plus le brouillard sur l'autoroute.
Eh bien, on peut tous tenir compte de vos conseils.
La curiosité est un vilain défaut.
Je confirme les constatations de la levée du corps. Sacha Reynaud a un gros traumatisme facial avec fracture mandibulaire et maxillaire. Les os propres du nez sont mobiles. Multiple impact traumatique direct qui pourrait correspondre à des coups de pied.
Thomas Hugues, Sidonie Bonnec.
S'en fait massacrer.
Massacrer par qui? Par quoi?
Balthazar.
Quoi, Balthazar?
RTL.
Quoi, Balthazar? Ça fait 10 ans qu'il y a de l'avance sur nous!
Extrait de la série Balthazar avec Thomas Sisley. On découvre les coulisses du métier d'ailleurs de Thomas Sisley dans cette série. Médecin légiste avec un vrai médecin légiste, Michel Sapanet, qui dirige l'Institut de médecine légale de Poitou-Charentes. Vous êtes aussi maître de conférences en médecine légale. Cette série, vous l'avez regardée, j'imagine?
Je suis très fan.
C'est bien, mais est-ce que c'est réaliste?
Non, pas du tout. Mais c'est... le plaisir n'est pas là.
Oui.
Le plaisir, c'est le personnage. Mais bon, alors rassurez-vous, on ne se bat pas avec les méchants, nous.
Hein. Est-ce qu'un
j'ai un point commun avec lui.
Oui.
Il est très attiré par les odeurs et moi aussi.
Ça veut dire quoi, attirer? C'est-à-dire que vous découvrez des choses grâce à votre nez?
Avec les odeurs, oui.
Par exemple?
Par exemple, lorsque vous avez un corps qui a été retrouvé dans un incendie, dans une maison, hein, par exemple, lorsque vous l'amenez à l'institut et que vous ouvrez la housse, là, il y a un très bref moment où, une fois, j'ai ressenti une effluve très fugace d'odeur d'essence.
Et donc ça vous a orienté
et donc,
dans le
ça a orienté tout de suite. J'ai dit aux enquêteurs, écoutez, bon, là on a une particularité sur l'odeur. Alors je demande à tout le monde, vous l'avez senti? Non, donc personne ne l'avait senti avec moi. J'ai dit, on va quand même faire les prélèvements qu'il vous faut pour vérifier que le corps n'a pas été arrosé d'essence avant l'incendie de la maison, ce qui change tout. Et en fait, c'était bien un incendie criminel.
Et ça peut vous jouer des tours. Mais alors, dans la vie perso, qu'est-ce qui vous est arrivé dans un très bon resto à Nice?
Oui, c'était une expérience assez intéressante. J'étais en vacances avec des copains dans un resto gastronomique niçois. Et donc, j'avais demandé un plat, voilà, le plat du coin. Et ça s'appelle le Stockfish. Il m'avait vendu ça.
C'est du poisson, c'est un peu
c'est
fumé.
C'est un poisson. Alors, c'est un poisson qui était mis en barrique pour partir dans l'arrière-pays niçois à l'époque du 19e, début du 20e siècle. Et donc, c'était un poisson en saumure, quoi. Et il m'amène l'assiette, il y avait les petites pommes frites, il y avait les feuilles de salade, et puis il y avait des espèces de morceaux de chair qui ressemblaient entre le hareng qu'on fait mariner et le maquereau en boîte, vous voyez, du point de vue de l'aspect. Oui. Et donc là, je fais ce que je fais toujours au restaurant, mais aussi dans mes autopsies, quand j'étudie le contenu gastrique, c'est-à-dire je prends mon assiette, je ferme les yeux et je mets le nez au ras des aliments et je sens, parce que j'aime bien les odeurs. Et alors là, catastrophe, une image s'impose, le corps que j'avais autopsié 6 mois avant, qui avait fait un séjour de deux ans dans un puits, après avoir été poussé par une personne, voilà, par un meurtrier.
Vous n'avez pas pu finir votre plat?
Alors, pas du tout. D'abord, mes copains m'ont regardé en me disant, tiens, qu'est-ce que ça sent pas bon? J'ai dit, si, ça sent bon, hein, on maîtrise, il faut maîtriser tout ça. Ouais. Et après, je me suis dit, bon, bah, maintenant, il va falloir que je le goûte quand même, le plat, parce que, bon, il y a d'autres coïncidences d'odeur avec les corps. Et donc, je goûte mon plat, je commence à manger, et là, j'ai vraiment eu l'impression de mastiquer le corps. Et tout simplement parce qu'à l'époque, on n'avait pas les systèmes d'aspiration qui ventilaient le corps et la table pendant l'autopsie. Et donc, on se retrouvait en fin d'autopsie, quand les corps étaient odorants, avec les odeurs collées sur le palais et sur la langue. Et on avait le goût du cadavre dans la bouche.
Ça sent quoi la mort, Michel Sapanet?
Ça dépend des
morts.
On a une grande gamme.
C'est-à-dire que ça dépend de la décomposition du corps,
tout à fait,
par exemple,
de son état. C'est-à-dire que quand on sort encore du frigo, bah, ça sent la viande au rayon boucherie de votre boucher préféré.
Attendez, du frigo, parce que vous avez des frigos, vous conservez les corps, c'est ça, l'institut?
Oui, bien sûr, on les met dans des frigos pour qu'ils ne s'altèrent pas le temps qu'on fasse l'autopsie, sinon c'est embêtant. Donc ils sont à 3 degrés le temps qu'on fasse l'autopsie et après le temps que la famille récupère le corps. Donc ça va de cette odeur-là à une grande gamme de variétés de fromages.
Bon, on va peut-être pas rentrer dans le détail de toutes
si, les fromages, c'est très bon.
Oui, mais vous réussissez à garder votre appétit. Mais bon,
et on a de l'humour quand on est médecin légiste. Vous êtes obligé, parce que c'est un métier.
En tout cas.
Vous voyez des choses terrifiantes.
Oui,
dire, on est tous terrifiés en vous écoutant, on vous admire, mais on est terrifiés.
L'admiration, je ne sais pas si elle est...
L'humour, c'est une protection?
L'humour, c'est une aide. Ça aide beaucoup. Bon, alors après, tous les légistes n'ont pas de l'humour. Moi, c'est mon mode de fonctionnement.
Ouais. Et vous publiez, Michel Sapanet, en direct de la morgue, c'est chez Plon. Et donc, cette histoire dont parlait Sidonie juste avant la pause, histoire incroyable, un homme qui se suicide et qui veut faire croire à un meurtre, c'est ça?
Oui, oui, tout à fait, parce que... Enfin bon, c'est toute une histoire qui commence par un coup de fil... mentionnant une agression par des gens du voyage. Et donc l'alerte est déclenchée et la personne est retrouvée une demi-heure après pendue derrière sa voiture. Alors pendue derrière sa voiture, c'est que la voiture avait fait un tout droit dans un champ pendant 300 mètres avec une corde autour du cou. Il était accroché derrière le pare-choc arrière, pieds et mains liés. Et les gendarmes ont tout de suite tout déclenché. Alors le plan épervier, 200 gendarmes a fouillé la campagne, un hélico qui était déplacé.
Pour chercher un meurtrier.
Et donc on cherchait un meurtrier, ce qui était très logique. Donc j'arrive sur les lieux, je vois les traces de ripage au démarrage dans un chemin de terre. Et puis après la voiture qui fait son tout droit dans l'herbe, les herbes étaient hautes. Donc il y avait une trace étroite, c'était une roue, et il y avait une trace large, c'était le corps. Donc je vais jusqu'au corps et là je remarque... dans la voiture, un bâton qui est sous le pédalier, vous savez, les pédales de commande. Quoi.
Comme pour coincer les pédales.
Alors non. Au début, c'est pas la réflexion qui me vient. Au début, la réflexion qui me vient, c'est ça doit être gênant pour conduire, parce que vous savez, dès qu'on a un caillou sous les pieds, l'accélérateur, le débrayage, le frein, c'est gênant. Et voilà. Puis je fais demi-tour, je reviens au départ avant de m'intéresser au corps, parce que j'aime bien explorer tout l'ensemble. L'ensemble de l'environnement, je reviens vers mon corps et là, il y a des images qui arrivent en flash avec l'association Fusil, Bâton, Suicide. Bon, il n'y avait pas de fusil, il n'y avait pas de suicide. Et dans ces cas-là, il faut laisser travailler le cerveau. Et il y a l'enquêteur qui, la voix de l'enquêteur, je suis dans ces images quand la voix de l'enquêteur me demande « Alors, docteur, votre avis ?» Et puis là, je sors, mais sans avoir le temps de réfléchir. Hein. C'est sorti comme ça, très naturellement. « Votre homicide, c'est un suicide. » Et j'entends un gendarme dans mon dos qui dit « Qu'est-ce qu'il a bu le docteur ce matin ?» Parce qu'il était 10h du matin, donc ça n'allait pas très bien avec le contexte.
Et vous avez pu démontrer que c'était effectivement un suicide ?
Alors ça a été l'objet de... Voilà, la gendarmerie s'est divisée en deux groupes, ceux qui croyaient s'apanait et ceux qui disaient des conneries.
Ouais. Est-ce que c'est l'observation du corps de la victime ?
Pas du tout.
Et le vœu finant qui vous
a permis de... Au début, pas du tout. Au début, c'est ce bâton. Et alors pourquoi, quel a été le mécanisme En fait, quand on veut se suicider avec un fusil de chasse, quand le fusil est trop long, on prend un bâton pour appuyer sur la gâchette ou une petite tige, voilà, sur la détente. Mmh. D'accord ? Et donc, c'est ce bâton qui m'a fait penser à tout l'ensemble. Et a posteriori, effectivement, on s'est aperçu qu'il y avait eu tout un montage qui avait été fait avec le bâton pour coincer en position débrayée, mettre le contact, mettre en prise en première. Donc, tant qu'il y avait le bâton, ça allait. Ensuite, se faire un montage, la corde autour du cou attachée au pare-choc. Ensuite, se lier les mains et les pieds. Et après, donner un coup dans le volant qui faisait tomber le bâton et la voiture partait
Pourquoi
en prise.
Pourquoi cette fraude ?
Mais oui, il voulait charger quelqu'un ?
Pourquoi ça ? C'était quelqu'un de déprimé, qui avait des problèmes financiers, qui comptait, je pense, sur les compagnies d'assurance pour résoudre ces problèmes-là.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues.
Docteur Megan Hunt, médecin légiste, assisté de Peter Dunlop, expert médico-légal. Nous nous apprêtons à pratiquer l'autopsie d'Angela Swanson, une jeune femme de 32 ans. Alors, que savons-nous sur cette jeune fille ?
Soyez fiers d'être curieux.
Toutes les réponses sont ici. Parce que c'est ce que nous faisons. Grâce à son corps, je peux savoir beaucoup de choses sur la façon dont Angela Swanson a vécu. Et surtout sur la façon dont elle a été tuée.
Sur RTL.
Les secrets d'un métier médecin légiste avec Michel Sapanet. Vous occupez des morts, des vivants, des personnes victimes de violences. Vous êtes dans votre institut médico-légal, dans une salle d'autopsie. Vous êtes aussi sur le terrain. Vous êtes aussi aux audiences des procès. Et ça, c'est un moment, je sais que vous aimez particulièrement, parce que c'est le moment du dévoilement.
C'est la cerise sur le gâteau.
C'est la cerise sur... Pourquoi ? Parce qu'en fait, vous venez dévoiler vos conclusions. Et c'est vous qui pouvez faire basculer le procès ?
Oui. Alors d'abord, il y a une énorme charge émotionnelle. Le procès d'assises, c'est quelque chose de très lourd. On est exposé, la qualité de votre travail est exposée. Et comme personne, comme expert, on est aussi exposé à tous les coups, y compris les coups bas des avocats. Bon, parce que pour un avocat, tous les moyens sont bons pour défendre son client. Donc ça fait partie du jeu. Donc c'est quand même, il y a l'adrénaline.
Il y a cette fois, Michel Sapanet, où vous rendez complètement marteau, ça ne doit pas être la seule fois, un avocat de la défense. Pourquoi il craque ? Qu'est-ce que vous
Alors,
avez fait ?
Je ne l'ai pas fait exprès, mais ça m'a beaucoup amusé. C'est un avocat pénaliste de renom qui défend très bien ses dossiers. Et on était dans l'histoire de violence conjugale, drame de la séparation, de jalousie, etc., etc., avec un individu qui s'était procuré une arme de poing de gros calibre et qui, après avoir fait un premier essai pour voir que l'arme fonctionnait dans la vitre d'un appartement, et bon, sans conséquence heureusement, avait tiré sur trois personnes. Et donc, il y avait... un blessé léger, un blessé grave et sa conjointe avait juste été blessée au coude, mais le jour de la reconstitution, on avait vu que, comme ce qui avait été déclaré par tout le monde d'ailleurs, à un moment, il avait pris l'arme et l'avait mise sur la tempe de la personne, de sa conjointe, et avait appuyé. Ça avait fait clic. Bon. Et après, il avait repris son arme, c'était un pistolet semi-automatique, donc quand ça fait clic, c'est un incident de tir où il y a quelque chose qui se passe. Donc il avait manipulé la culasse pour remettre un nouveau projectile, remis l'arme sur la tempe, reappuyé, ça avait refait clic. Bien. Et il se trouve que la ligne de défense de l'avocat, c'était d'évoquer finalement un homme qui pète un plomb, comme dans le grand classique des violences conjugales, c'est-à-dire qui ne se maîtrise pas et qui, sous l'effet de la déception, de l'amour, de la frustration, non pas veut tuer, mais finalement tire sans vraiment l'intention de tuer.
Voilà.
Donc il voulait plaider les blessures volontaires.
Ouais. Et qu'est-ce que vous réussissez à démontrer alors
c'est tout simple. simplement que dans ce dossier, il n'y avait pas de balisticien parce que l'arme, on ne l'avait jamais retrouvée. Donc, il y avait juste l'étude des cartouches. Mmh. On n'avait même pas de projectiles puisqu'ils étaient partis dans la nature. Donc, on savait que c'était du 9 mm sur un pistolet semi-automatique et c'est tout. Donc, pas de balisticien et personne, parce que j'étais à l'audience avant, il y avait les enquêteurs qui faisaient leur exposé de toute l'affaire, et personne ne parlait de cette arme sur la tempe. Et la victime principale n'était pas là parce qu'elle était dans un tel état psychologique que de toute façon elle ne voulait pas s'exprimer. Dans les déclarations, ça avait été bien noté, mais la présidente n'en avait pas parlé. Personne n'en parlait.
Et donc, vous mettez les pieds dans le plat.
Et alors donc, à la fin de ma déposition, moi j'avais fait les déclarations sur la reconstitution, l'ordre des tirs, est-ce que c'est compatible ou pas avec ce que racontent les victimes et avec ce que raconte l'auteur. Et à la fin, donc, la présidente me dit « Bon, docteur, merci, est-ce que vous avez d'autres éléments qui pourraient apporter quelque chose à la vérité ?» Et puis là, en deux secondes, je me décide, je lui dis « Oui, madame la présidente, il y a un point dont nous n'avons jamais parlé jusqu'à présent. » La fameuse arme sur la tempe et le tir qui fait clic.
En quoi ça confondait le client et pourquoi ça a rendu fou l'avocat de la défense?
Ça rendait fou l'avocat. Alors d'abord parce que il a commencé. Alors là, il m'a dit oui, alors expliquez-nous. Alors je ne suis pas balisticien, c'est vrai, mais un légiste, ça peut avoir un certain nombre de connaissances en matière d'armes. Mm-hmm. Il se trouve que j'ai ces connaissances-là. Et donc, j'ai expliqué le fonctionnement des pistolets semi-automatiques et qu'est-ce qui se passait quand ça s'enrayait ou quand il y avait un problème et à quoi correspondait le fameux clic. C'est-à-dire que c'était ni plus ni moins que la percussion. Donc, il n'y avait pas de balle ou la balle n'était pas bonne. Oui. Et donc, il y avait...
Il avait vraiment voulu tirer sur
la tête. Il avait vraiment voulu tirer dans la tête. Oui. Et donc, ça transformait toute la... Tout le montage de l'avocat qui voulait faire croire juste à trois coups de feu comme ça, en quelque chose qui était une tentative d'assassinat qui avait tourné court parce que c'était le hasard.
Donc il a pris beaucoup plus de prison que ce qu'il devait prendre, j'imagine.
Il s'est pris 13 ou 15 ans, je ne sais plus exactement, au lieu de prendre 3-4. Et donc il est devenu fou de rage en disant « Oui, l'expert n'est pas légiste, il n'est pas balisticien. Moi, je fais du marathon, ce n'est pas pour ça que je parle du marathon.
» Bref, il avait perdu.
Vous pratiquez ce métier depuis combien de temps ?
Depuis 1987. Donc
j'imagine que vos outils de travail ont dû radicalement évoluer, non ?
Plus rien à voir, parce que maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise les outils des vivants pour étudier les morts.
La radiographie, par exemple, le scanner, l'échographie.
C'est le scanner, les scanners injectés, les IRM. On arrive à avoir une IRM en 24 heures, ce qui est une performance quand on sait que pour un vivant, il va falloir plusieurs semaines.
Vous découpez quand même toujours les corps ou pas ?
Alors, on essaie. Je pense que l'avenir, c'est d'aller vers... une décision raisonnée qui va réserver l'ouverture du corps au cas où on ne pourra pas faire autrement.
Donc la scie à crâne, c'est ça ? Vous ne l'utiliserez pas ? Parce que ça, c'est l'un des objets mythiques du...
C'est un des objets mythiques, oui. C'est une belle scie oscillante qui est un peu comparable à celle qu'on utilise pour ôter les crânes chez les vivants.
Comment on a l'idée de devenir...
Comment
vous avez eu l'idée de devenir médecin légiste ?
Oh, c'est un hasard et une rencontre avec un crâne, un policier et mes études de chirurgie maxillofaciale.
D'accord, et ce crâne vous a donné envie d'en...
Tout simplement parce que le flic était venu pour nous dire à quoi pouvait ressembler cette dame. Et au terme de cette longue analyse, je m'étais dit, ouais, la médecine légale, c'est pour moi. J'avais juste pas imaginé les asticots.
Ah oui, parce que c'est vrai que les insectes, ce sont des alliés, des enquêteurs.
Pas des alliés,
non. C'est pas sympa, non. Bon, ok.
Des asticots, il y en a, et des histoires passionnantes, des détails sur votre métier, Michel Sapanet, dans En direct de la morgue, chronique d'un médecin légiste, c'est publié chez Plomb.
Sidonie Bonnec, Thomas Hugues, les curieux sont sur RTL.